Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences globe d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Libre Imam, monde arabe et musulman. Alors, je suis Kamel Chachois, je suis chercheur en anthropologie à l'Institut d'études et de recherches sur le monde arabe musulman, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Clodo-Awad, anthropologue et directrice de recherche au CNRS. Elle vient de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule « Habiter le désert ». Alors, c'est « Les Touaregs de l'Arca », photographié par Mars Auguste 1951-1965. Ce livre est publié tout récemment aux éditions Non-Lieu, 2021. C'est un livre aussi qui compte beaucoup de photographies, 323 en tout, que vous avez sélectionné sur un total, un ensemble, je crois, du fonds visuel déposé ici à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui compte quand même 10 000 clichés, vous dites. Et c'est vraiment énorme. Alors, vous présentez aussi ce qui est intéressant dans ce livre, c'est d'abord le choix de ces 323 photographies et aussi leur contextualisation que vous avez présentée en introduction, assez dense et en même temps très accessible et très bien écrite surtout, et qui contextualise le contexte à la fois biographique de Mars Auguste, et aussi cette expérience, cette première expérience, notamment de 1951-1956, où il a été affecté pour la première fois dans l'Akar, et plus précisément chez les Kelrla, chez les Imouhar, si j'ai bien prononcé. Et c'est la première classe de Mars Auguste, ce qu'on appelle l'école nomade chez le Kelrla. Et notamment, il est affecté aussi à ce campement de l'Amenokal Beir Hamouk, c'est ça. Et pourquoi ce choix précis des Kelrla, Hélène Clodo-Awad?
Pour répondre à cette question à plusieurs tiroirs, je vais d'abord dire que j'ai fait un choix non pas entre le fonds global qui représente 10 000 photos et qui a été déposé à l'IREMAM sous la responsabilité scientifique de l'encyclopédie berbère. Donc, les photos à partir de 1960, lorsque Mars Auguste devient chercheur au CNRS, concernent essentiellement son thème de recherche qui va devenir l'alimentation en milieu aride et spécialement dans la Agar. Alors, moi, je me suis intéressée à une période où Mars Auguste est instituteur, donc il n'est pas encore chercheur. Et ce qui m'a guidée dans ce travail, c'était l'interrogation finalement qui va irriguer toute sa recherche future, c'est-à-dire comment se nourrir au Sahara. Pourquoi ? Parce que en tant qu'instituteur nomade, il va faire l'expérience d'une vie difficile dans un milieu au climat extrême, et c'est en éprouvant lui-même la difficulté de s'organiser pour résister à ce climat, je pense, qui va guider ses recherches futures. Mais là, on n'en est pas là. Donc, Mars Auguste est instituteur, et en tant que jeune homme, on sent bien qu'il le dit lui-même dans ses mémoires, il a soif du grand large. Alors, qu'est-ce que c'est le grand large pour lui? Eh bien, c'est ce rêve d'aventure, notamment au Sahara. Et il va tout faire pour être nommé dans le Sud, ce qui est en même temps assez exceptionnel pour quelqu'un qui est né à 30 km d'Alger, qui a grandi dans un grand domaine agricole colonial, dont son père était régisseur. Il a ce rêve et il va s'approcher du Sahara en étant d'abord nommé à Laghouat une année et puis à El Oued une autre année. Donc, on est déjà en milieu saharien, mais à des kilomètres, des centaines de kilomètres de la Hagar. Et finalement, il arrive dans la Hagar, il a 24 ans et il va arriver dans ce campement de l'Aménocal qui est en fait le chef de l'ensemble du pôle politique de la Hagar, du moins le chef symbolique, puisqu'on est en contexte colonial et que cette chefferie est quand même étroitement contrôlée par les autorités administratives. Voilà un peu le contexte de l'arrivée de Marceau Gast dans ce milieu.
Alors, le campement de Kelrna et de Kelahgar dans son ensemble, il faut rappeler que c'est un ensemble de confédérations touareg qui vivent et que sur un territoire, donc sous l'autorité symbolique mais aussi effective politique de l'armée locale, qui représente à la fois trois fois le territoire de la France.
Même cinq fois.
Cinq fois.
Oui. Cinq fois le territoire de la France. Donc, là, c'est un territoire immense. Oui, en effet, c'est un territoire immense. Et finalement, le rôle de cet Aménocal est à la fois de relever l'impôt au bénéfice des Français. Il avait certainement sa part, ce n'est pas précisé dans les écrits de Marceau Gast. Donc, il en retirait quelques petits avantages. Et c'est surtout de contrôler lui-même un ensemble de clans que l'autorité française n'arrivait pas à faire elle-même. Donc, c'est un intermédiaire. Et je pense que ça contribue à l'ambiance très particulière de ce campement que Marceau Gast décrit comme un campement assez austère, difficile. Voilà. Et lui-même, en tant qu'instituteur colonial, eh bien, il est perçu plutôt comme un impôt que comme un avantage par la population et surtout par le campement de la chefferie. Donc, il est dans une situation où les rapports à l'autre sont assez difficiles. Il va falloir qu'il construise ses relations et ça n'a pas l'air très facile, en tout cas, d'après ses mémoires et d'après ce qu'il en dit lui-même.
Alors, justement, l'Aménocal, c'est un personnage important mais d'une importance relative par rapport à cette médiation qu'il fait, qu'il occupe aussi entre les confédérations touareg, les populations touareg en général et l'administration coloniale. Et c'est ce qui fait de lui à peu près, je le dirais par égocentrisme vis-à-vis du Nord, c'est à peu près le caïd du Nord habituel qu'on connaît dans les... l'Algérie du Nord, et son pouvoir est à la fois tout et rien, si on regarde la réalité historique et les pouvoirs du caïd. Mais quelque part d'ailleurs, vous parlez, en utilisant les mots de Marceau Gast, de l'Aménocal comme étant une cour seigneuriale, il dit que c'est un sultan oriental. Il parle même de bigoterie quand il s'agissait de l'Aménocal. Et par contre, vous contextualisez effectivement ce repli de l'Aménocal à partir des années 50 ou même 40, parce qu'il dit effectivement qu'il s'est tout de suite influencé par le contexte religieux des années 40-50, c'est-à-dire c'est à peu près le réformisme musulman des années 30, qui c'est une version du réformisme musulman du Nord, notamment du mouvement de l'Islah d'Ibn Badis, qui arrive à peu près dans le sud après les Mosaïques. On sait à peu près, c'est une version touareg des sociétés dans le Sahara du réformisme musulman, non?
Je ne présenterai pas les choses comme cela pour la bonne raison qu'on a affaire uniquement à un individu qui finalement se soumet dans ces années-là à une version juridique de l'islam sous l'influence de personnages religieux venus du Nord. Mais il s'agit d'une personne, c'est la personne de la Ménocale. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en effet, dans le contexte colonial présent, Marsogaste le perçoit. C'est moi qui parle de sultan oriental, il le perçoit comme un petit roitelet avec une cour dont la fonction n'aurait pas changé, serait immuable. Et c'est ce regard qui a façonné la perception de l'administration coloniale qui est à contextualiser et qui est très particulier parce que on se rappelle que déjà au temps des explorateurs, un parallèle a été fait entre la société Touareg et la société médiévale européenne jusqu'à imaginer que les Touaregs ne seraient pas africains finalement et seraient même les descendants de Saint-Louis, des croisés de Saint-Louis. Donc, on est dans une fantasmagorie qui, quelque part, va contaminer les gens qui arrivent dans cette société très peu connue et qui vont voir un espèce de reflet de cette société médiévale. Or, pas du tout. D'un point de vue Touareg, le chef, c'est d'abord un arbitre, celui qui a le pouvoir de créer le consensus entre les clans, entre les puissances différentes des clans. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un chef qui est élu. Il est élu entre plusieurs candidats qui ont le droit à la chefferie. Donc, c'est vraiment. Et quand Marsogaste décrit la difficulté de bien se comporter, parce qu'il a eu quand même des instructions de la part de l'administration coloniale qui lui a précisé qu'il ne fallait pas faire de vagues, il fallait pas, il fallait se montrer tout à fait correct par rapport à la Ménocale et au pouvoir qui lui est prêté, mais c'est un pouvoir interprété par l'administration coloniale. Donc, ça crée une confusion et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a une espèce de grille d'interprétation qui se juxtapose dans la relation que Marsogaste noue avec ce monde Touareg. Par ailleurs, au sujet de cette espèce de tristesse et de rigueur de la Ménocale qui en effet interdit, enfin en tout cas c'est le témoignage de Marsogaste qui interdit les réjouissances, qui interdit les fêtes, qui interdit le jeu du violon touareg, qui interdit la poésie chantée, qui interdit la tindé, c'est-à-dire les rassemblements poétiques et festifs et chantés autour du jeu du tambour et des voix des femmes. Pour Marsogaste, il s'agit de bigoterie. En fait, on peut trouver en effet d'autres motifs pour interdire ces chants. C'est la pleine époque, les années 40-50, des bandits d'honneur, c'est-à-dire ceux qui, sans aucun moyen, avec des armes dérisoires, résistent à l'administration coloniale, n'en veulent pas. Et donc, ça donne une série de chants qui sont subversifs et qui ne font pas l'éloge comme autrefois des poésies touareg qui parlaient de la noblesse touareg, la noblesse de la hagar. Donc ils ne font pas l'éloge de la noblesse de la hagar, des guerriers preux et courageux, mais de ces êtres qui sont les bandits d'honneur et qui résistent avec des moyens dérisoires, souvent de conditions fort modestes. Alors, on comprend très bien l'irritation que peut ressentir l'aménocal face à ces registres qu'il insupporte, parce que les héros ne sont plus les gens de sa famille qui, quelque part, comme vous le dites, Kamel, eh bien, jouent le rôle de caïd et d'intermédiaire entre l'administration coloniale et la population.
Oui. Et alors, Marsegast, comme instituteur, il va il va travailler dans plusieurs sites différents et il va être appelé aussi à nomader, si vous voulez, entre plusieurs sites et entre plusieurs groupes ou confédérations sur un rayon à peu près, vous dites, de 100 km. Et là, c'est de là où on tient l'instituteur nomade ou l'école nomade. Parce que finalement, c'est une classe qui se tient sous la tente. Et cette tente qui sert à la fois d'école pour les enfants, mais aussi de tente pour Marsegast et son cuisinier ou oui. Son assistant.
Oui.
Comment, oui, oui. Et justement, cette nouvelle école qui commence dans les années 50, qui déménage, comment elle était reçue sur place et qu'est-ce qu'elle avait produit comme génération scolarisée, à quoi elle avait servi, parce que j'ai fait un peu le compte. C'est-à-dire, entre 51 et 52, dans le campement des Imouhars chez les Kalrana, puis les Isendan dans l'Atakor, et enfin à la Tamesna, en tout, peut-être, il y a une cinquantaine d'élèves en l'espace de 5-6 ans. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu, ce n'est ni beaucoup ni peu d'ailleurs, mais en même temps, je pense que c'est assez pour produire une sorte de perturbation générale. Et ça, je me rappelle les travaux de Fanny Colonna sur le Nord. Elle disait effectivement sur l'école entre 1880 et 1939, c'est une thèse qu'elle avait soutenue sous la direction de Bourdieu sur l'école coloniale, elle disait effectivement que l'administration coloniale voulait scolariser assez, non pas pour qu'ils deviennent effectivement pour intégrer les élèves, mais assez pour les arracher à leur milieu naturel. C'est très vicieux comme système qui fait qu'on sort les gens de leur milieu sans les laisser arriver à l'autre milieu. C'est juste assez pour perturber. Alors, qu'est-ce qu'elle a produit cette scolarisation sur laquelle d'ailleurs Marsegast doutait un petit peu. Il disait que c'était une mission plutôt politique qu'éducative, au fond. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je crois que ça dépend des périodes et ça dépend des lieux où il a été nommé. Alors, d'abord, il faut préciser que Marsegast n'est pas le seul instituteur nomade. Donc, il y a un peu plus d'élèves que ce que vous citez qui ont été formés. Mais en effet, le nombre paraît dérisoire par rapport à l'immensité de l'espace et par rapport à la population touareg. Alors, quand il arrive dans le campement de l'Aménocal, il n'y a pas beaucoup d'enfants scolarisés, il y en a environ 6 ou 7. Et il y a en effet une réticence qu'il ressent. Donc, il va essayer d'utiliser des méthodes qui permettent d'intéresser les élèves. Mais l'idée que ça ait produit une acculturation, c'est difficile à dire dans ce cadre-là parce que c'est l'instituteur qui se déplace dans un campement nomade, et donc on est dans une situation où les enfants sont chez eux et ils sont d'abord éduqués par leurs parents. C'est très très différent des situations où les enfants sont mis dans des internats en dehors de chez eux. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a de dominant dans ce campement, c'est quand même la présence des parents et des adultes. Et évidemment, la position réticente des enfants, et puis Marceau Gast, finalement, se plaint de leur arrogance, de leur insolence, et il fait des rapports très durs sur ces enfants, des rapports où vraiment, voilà, il décrit des caractères intransigeants, et c'est d'ailleurs des rapports qui, à mon avis, doivent être traités avec intelligence, avec l'intelligence politique nécessaire pour ne pas voilà, les divulguer au hasard du libre accès des documents. Pourquoi ? Parce que ces documents ont besoin d'être analysés, contextualisés par rapport à ce qui se disait dans le milieu colonial. Ce n'est pas Marceau Gast précisément qui était capable de raconter cela. C'est un milieu ensemble, c'est un milieu d'ensemble. Voilà. Donc, ensuite, il va faire des expériences un peu différentes avec des enfants qu'il définit comme plus dociles. Alors, qu'a donné cette formation donc dans les autres milieux que celui de la chefferie? Qu'a donné cette formation? Ça a donné des personnes qui ensuite étaient capables, évidemment, de s'insérer dans des fonctions administratives. Et finalement, c'était bien l'idée de cette scolarisation obligatoire de certains campements Touareg, dans certains campements Touareg, c'était de trouver des relais à l'administration coloniale. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a marché? C'est très difficile parce que justement, le phénomène dit d'acculturation n'a pas fonctionné à cette échelle, c'est évident. Donc, les Touareg sont restés pendant très longtemps, et je dirais même jusqu'à aujourd'hui, ce qui explique beaucoup de choses aussi sur la manière dont on gère leur territoire, ils sont restés dans l'esprit de l'administration coloniale et post-coloniale des êtres suspects. Suspects de soulèvements, suspects d'idées subversives, suspects... Voilà, donc la fabrication aussi de cette image de Touareg qui, bien que soumis à l'autorité française, soit suspect, elle perdure. Jusqu'à aujourd'hui, elle perdure. Donc, c'est très intéressant et c'est pour ça que cette observation des premiers temps, les temps qui précèdent le travail de Marceau Gast en tant que chercheur, m'ont tellement intéressée. C'est-à-dire que, à mon sens, c'était utile de travailler sur la fabrication de ce regard qui est lié à tout un contexte dont finalement les témoins parlent très peu. Enfin, on ne dissèque pas cette présence écrasante du contexte colonial. Et quand Marceau Gast, par exemple, parle de bigoterie au sujet du chef de la gare, il parle de tristesse, il parle... Est-ce que il contextualise cela dans justement la compréhension aiguë de ce que signifie la perte du pouvoir, la perte du quant à soi, la perte de la gestion du territoire pour le chef de la gare. Je crois qu'il ne le réalise pas.
Sa présence est peut-être plus pesante aussi pour les Touareg, j'imagine. Mais alors, il ne voit pas peut-être ainsi.
Non, non, je pense qu'il le perçoit quand même, puisque quand il s'interroge sur le rôle que joue sa nomination dans un espace où vont les Kalahagar et où se sont repliés une grande partie des Kalahagar, c'est-à-dire la Tamesna, qui, par les hasards des avancées des troupes coloniales françaises, se retrouve du côté de la colonie du Niger, dépendant de l'administration d'Agadez, il s'interroge sur le fait qu'on l'envoie là-bas pour instaurer une présence française dans une région où il y a des Touaregs de la Hagar recensés du côté algérien, mais vivant en dehors de l'administration, du contrôle de l'administration algérienne. Donc, en même temps, voilà, il a cette conscience, il se demande pourquoi on le nomme dans cette région, et il en conclut que c'est peut-être pour rappeler que ces Touaregs de la gare dépendent de l'administration coloniale de Ouargla, bon. De l'ex.
Mais à ce moment-là, justement, fin 53, début 54, il y a quand même le 1er novembre 54, dont on imagine effectivement que les échos aussi sont arrivés sur place, du moins à Marsogast. On le voit effectivement dans les photos, on voit un garçon travailler sur le journal L'Écho d'Alger, par exemple.
Oui, oui, tout à fait.
Il a dit qu'il n'est pas au Sahara, les personnes ne sont pas aussi coupées
de
l'information politique, etc., encore moins. Et peut-être que cette image, la guerre qui commençait, la contestation, la résistance, etc., n'est pas assez donnée dans l'analyse, même si de 54 à 56, il était sur place. Mais on ne sait pas quel était l'écho de la guerre à ce moment-là dans le Sud. Je parle de l'écho, je ne parle pas des actes de guerre à ce moment-là.
Non, je pense que c'était clairement une préoccupation sous-jacente, et c'est pour ça que je crois que les autorités administratives essayaient de s'informer, de contrôler et de contenir. Pour moi, c'est clair. Alors, est-ce que Marsogast le ressent ainsi? Marsogast, évidemment, est au courant de ce qui se passe dans le Nord, où réside sa famille. Il est au courant de toutes les contestations naissantes. Mais il dit qu'en effet, dans le Sud, c'est extrêmement calme. Donc, on sent cette préoccupation de manière très sous-jacente. Mais elle n'est pas explicite.
Alors, les photographies qui sont très belles, et vous avez réussi à mettre les 323 dans un livre en page, hein, il y a assez de photos qui sont très très bien reproduites d'ailleurs, et on s'étonne pour... des photographies des années 50, on se demande avec quel appareil, dans quel contexte il photographiait, est-ce que c'était... parce qu'il y a de très belles photos. Et oui. Il y a des photos aussi, on se demande si c'est lui vraiment qui les a prises, parce qu'on le voit lui. Donc il y a quelqu'un d'autre qui était en train de prendre ces photos aussi.
Oui. Oui.
Et en même temps... on voit beaucoup, beaucoup d'enfants, ça vous le soulignez très bien. Vous avez d'ailleurs donné aussi dans le texte une contextualisation très, très intéressante sur ce contexte scolaire d'institution. Et ces photos sont vraiment indispensables et très, 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 très belles. Et vous avez rendu vraiment l'esprit, le sentiment, les corps, on les voit, la nudité, les coiffures des enfants, la manière de s'asseoir, comme dans une école coranique, on dirait. Hein. Quelquefois, par contre, les jambes en l'air, comme vous dites, les jambes en ciseaux, c'est mêlé, les filles et les garçons, on ne sait pas, de toute façon, on n'arrive pas à savoir, les corps sont extrêmement mêlés, ces corps d'enfants hein, qui on a du mal à distinguer d'ailleurs entre filles et garçons. Est-ce que, effectivement, je me suis posé cette question. Ce n'est pas Marsogast qui prenait ces photos. Il y en a une partie au moins, peut-être.
Si,
parce
si.
Qu'il y en a deux ou trois Marsogast, où on le voit lui-même.
Non, Marsogast a pris toutes ces photos, ça c'est clair. Ces photos d'ailleurs sont souvent...
Sauf celle où il est lui-même pris en photo.
Où il est pris en photo par des collègues souvent instituteurs. Voilà, c'était souvent ces collègues instituteurs qui lui rendaient visite, ou des touristes, il parle des touristes aussi, puisque finalement, le directeur d'école de Tamanrasset, qui était responsable des instituteurs nomades et qui les ravitaillait, amenait très souvent des touristes pour voir ce que c'était qu'une classe nomade, donc transformant un peu cet espace d'enseignement en zoo humain dont se plaint énormément Marsogast. parce que ça déconcentre les enfants, parce que ça interrompt la classe pour un motif futile. Enfin, il était assez mécontent de ses visites. Alors, ces photos, elles ont été prises par Marceau Gast. Beaucoup donc, sont sans contraste, justement, et il y a eu un travail. Certaines sont floues, et j'ai énormément insisté pour qu'on les publie pour leur intérêt, même si techniquement, elles ne sont pas irréprochables. Certaines sont très belles et bien conservées, ce n'est pas le cas de la majorité, et je dois remercier l'éditeur pour son travail remarquable sur les photos, parce qu'il les a rendues, enfin vraiment, il les a améliorées, il les a rendues publiables, ce qui au début était difficile à envisager, puisque moi j'avais retenu un certain nombre de photos, et il en avait éliminé la moitié en disant ça, ça ne sortira pas à l'imprimerie. Dans les photos que fait Marceau Gast, il y a évidemment beaucoup de photos de paysages, parce que c'est très difficile de rester indifférent à ces paysages extraordinaires de la gare. Pourquoi j'ai éliminé ces photographies? Parce que cet espace Touareg de la Hagar est extrêmement connu par les photographes postérieurs qui sont venus prendre avec beaucoup de technicité ces paysages grandioses. Il photographie aussi beaucoup les sites rupestres, et de la même façon, je n'ai pas retenu ces photos parce que ensuite elles ont été documentées de manière techniquement qualitativement meilleure. Voilà. Et je ne les ai pas retenues, bien que ça fasse partie des repères dans l'espace des Touaregs, bien sûr. Alors, je me suis focalisée sur que signifie habiter le désert au milieu du XXe siècle. Qu'est-ce que ça implique comme savoir-faire, comme capacité, comme savoir, à la fois géographique, hydraulique, comme savoir sur la faune et la flore, comme connaissance pour exploiter des ressources rares et dispersées. Qu'est-ce que ça implique voilà. Et c'est en travaillant sur ce thème que j'ai essayé d'explorer au sens le plus large ce que veut dire et quel savoir doivent acquérir les personnes, les Touaregs qui vivent dans cet espace. Et donc, ça fait partie évidemment de l'enseignement Touareg. Alors maintenant, je vais montrer quelques-unes de ces photographies. Et en effet, je disais que l'instituteur Marceau Gast, qui faisait primer l'idée qu'il devait transmettre son enseignement d'instituteur aux enfants, il ne s'est pas formalisé des attitudes tantôt allongées, tantôt voilà, avec les jambes croisées des élèves, pour la bonne raison qu'il travaillait dans des conditions extrêmement sommaires, rustiques. Les élèves, évidemment, n'avaient pas de bureau, donc ils étaient assis par terre. Ils s'appuyaient sur des planches pour écrire, ou alors ils écrivaient sur le sol, allongés sur le sol. Et enfin, dernière précision que je dois donner, et c'est ce que j'ai essayé à la fois de contextualiser, j'ai essayé d'amener des éléments permettant de lire ces photographies, non pas comme des photographies exotiques, mais comme des photographies où il y a du sens. Alors, par exemple, les seuls enfants scolarisés sont les garçons. Non pas parce qu'on pense que les filles ont moins de capacités intellectuelles, mais au contraire, c'est parce qu'on a affaire à une société matricentrée dans laquelle les femmes ont un rôle prééminent. Et donc, pour éduquer les filles à ces hautes fonctions, seule la société peut le faire. Donc, les garçons qui sont amenés à avoir, à assurer le lien avec l'extérieur, avec l'inconnu, avec l'étranger, eux, peuvent aller à l'école.
Mais les filles qui ne sont pas venues à cette école sous la tente, puisqu'il y a 7 enfants, on imagine que... Les garçons. Parce que 7 élèves, c'est extrêmement très peu. Donc, on imagine qu'il y a beaucoup qui ne sont pas venus, beaucoup de parents qui On peut le voir comme une contestation de cette mission scolaire, on peut le lire aussi comme les réticences vis-à-vis de la scolarisation qu'on a connue déjà à la fin du XIXe siècle, par exemple dans la société kabyle où les travaux paysans, etc., empêchaient les enfants. Il n'y avait pas la croyance, il y avait la suspicion politique, oui, religieuse, etc. Donc,
non, tout à fait.
On parle de enfants qui ne sont pas à l'école.
Oui, oui. Alors, c'est difficile à dire. On a affaire en même temps à un campement qui est petit. Il y a 64 personnes en tout. Donc, apparemment, tous les enfants en bas âge sont venus. Et au départ, il était question aussi de donner des cours à des adultes qui n'ont jamais accepté. Par contre, quand la classe se tient, on voit des adultes venir davantage pour savoir ce que dit l'instituteur plutôt que pour, voilà, parce qu'ils participent à la classe. Donc, ça aussi, il faut que l'instituteur accepte la présence de ces adultes qui contrôlent en quelque sorte ce qu'il fait avec les enfants. Donc, c'est dans tout ce contexte que Marceau Gast, grâce à l'intervention de la méthode freinée qu'il met, va quand même réussir par une sorte de séduction à intéresser des élèves réticents. Et le récit de ce qui se passe en classe est très intéressant. Alors, je vais partager l'écran pour montrer les photos et pour montrer les thématiques qui ont servi à classer ce choix de photos. Pour commencer, une carte pour montrer que l'espace de mobilité des quais à la gare, c'était entre le massif de la gare et bien plus au sud, à 600 km au sud, la Tamesna, qui se trouve reversée entre trois frontières finalement, c'est-à-dire du côté du Niger, mais aussi une partie du côté du Mali. Et c'est un territoire interconfédéral qui fait le lien entre tous les pôles politiques Touareg. Ce que l'administration coloniale soupçonnait, mais ne percevait pas vraiment. Alors, voilà en quoi consiste l'école. Vous voyez que le matériel est très rudimentaire, c'est une hutte ou une tente. Et voilà, on voit les élèves en train de s'appliquer à écrire. On voit que l'école se fait en partie en plein air. Quand je parlais des adultes présents, ici, oui, on voit un adulte qui est présent, qui regardent le tableau, et on voit des tout petits enfants aussi qui viennent. Enfin, c'est une attraction. Donc, l'instituteur doit faire avec, et on voit qu'il est en train de contenir un petit enfant qui veut s'avancer. Et les élèves sont tous des garçons. Alors, quand on parlait d'entremêlement des corps, voilà un exemple.
Alors, les coiffures sont très intéressantes.
Les enfants donc ont des coiffures.
Qu'est-ce qu'elles signifient, ces coiffures?
Alors, les coiffures correspondent à des âges donnés.
Ah, d'accord.
Et elles sont reliées, là aussi, à des représentations de la construction de la personne chez les Touaregs. Voilà. Alors, par contre,
quand on a beaucoup, quand on a beaucoup, ou quand on a juste une petite touffe sur le cerveau.
Non, ça dépend de l'âge. Et donc, la plupart des enfants ont cette petite touffe. Et on voit que, comme dans l'ensemble d'ailleurs du monde berbère, du monde amazigh, on dégage, on aime beaucoup dégager le front et les tempes de la chevelure pour faire un visage, voilà,
propre.
Et voilà, là, voilà, avec un grand front. Et donc, il y a en général une petite touffe sur le sommet du crâne, qu'on appelle Tejakut, Tejakut, et il y a éventuellement des touffes de part et d'autre du crâne. Ouais. Et pour les filles, il y a également des coiffures souvent asymétriques qui sont très intéressantes. Mais là, Marsogas photographie sans même donner le nom de ces coiffures. Donc, je les ai restituées dans le livre. J'ai essayé de donner ces éléments. Alors, voilà une coiffure à crête qui est absolument remarquable et un petit élève qui s'applique à écrire allongé sur le ventre. Alors, les photos, elles permettent aussi de comprendre le contexte dans lequel évoluent ces enfants et qui est marqué d'abord par la mobilité nomade, donc une habitude du déplacement, une habitude des animaux. Là, on voit un déménagement avec un enfant qui est sous un auvent sur un chameau tiré par un autre animal sur lequel d'ailleurs est montée sa mère, si je me souviens bien de la photo. On voit le matériel, les bouteilles à beurre, etc. Donc c'est cette expérience que rendent aussi ces photographies. À gauche, on voit deux enfants, deux élèves de la classe de Marsogast et du clan des Calrella d'ailleurs, dont le fils de la Ménocale à droite, qui font du gardiennage de troupeaux. À droite, on voit un tout jeune enfant tout à fait à l'aise sur sa monture. On voit aussi la participation des enfants ici dans la Tamesna aux tâches productives, aux tâches quotidiennes d'exor de l'eau par exemple, qui est une tâche très, très pénible. Et on voit les enfants jouer. À droite, une petite fille qui joue avec une longue perche. Et à gauche, un petit garçon qui saisit des cristaux de sel. Voilà. D'accord. Donc, les cristaux de sel, c'est utile à la cuisine. Et puis, on voit le cant à soie de ces petits enfants, avec à gauche un petit garçon et son vêtement déjà à demi drapé, à droite une petite fille. Donc les enfants sont nus pour des raisons d'hygiène d'ailleurs, comme le comprend très vite Marsogast. Et ils évoluent dans ce milieu souvent pierreux, pieds nus et tout nus. À gauche, on voit un petit chasseur de gerboises. Donc, ça fait partie des activités et des compléments alimentaires que les enfants se trouvent. Et à droite, on voit un jeune homme qui tient un bébé sur ses genoux. Et j'ai retenu cette photo. Pourquoi? Parce que il y a une constante chez les Touaregs, c'est l'affection de tous les adultes et notamment des hommes pour les enfants. Voilà, il y a quand même une façon de se comporter qui est assez étonnante par rapport à d'autres sociétés plus patricentrées où les hommes évitent de s'occuper des tout petits enfants. Ici, c'est le contraire. Alors, cette photo, je l'ai retenue parce que ça fait partie de l'univers des jeunes gens, ici des adolescents de la Tamesna, donc des Ireguenaten, et qui sont, voilà, c'est des attitudes très décontractées. Donc les deux garçons sont à gauche et deux filles à droite. Alors Marsogas s'est intéressé aux tâches du quotidien, comme l'élevage, bien sûr, le gardiennage, ici des troupeaux de chèvres, avec une bergère qui a drapé de manière très intéressante son voile pour se protéger du soleil. Les tâches d'exor de l'eau au puits d'Inabunharit, donc où se trouvent des clans de plusieurs confédérations. Marsogast a l'idée que les Touaregs de la Hagar, chez qui il est instituteur, sont seuls dans ce vaste espace de la Tamesna, mais ces photos ont l'avantage d'amener des informations complémentaires qui montrent qu'il y a des gens de l'Aïr et de l'Adar qui sont également présents et d'autres confédérations grâce à des particularités vestimentaires. Aussi, l'idée coloniale de la tribu comme un espace clos sans relation avec les autres domine dans ce regard et amène une certaine cécité. Chaque période a ses cécités, mais en voilà une. Voilà, donc là, avant la traite, on amorce la lactation en laissant téter le chamelon. On voit un homme derrière avec son écuelle et à gauche une dame. Là, c'est une jeune femme qui transvase le lait dans l'outre. Ici, ce sont les tâches de fabrication du fromage et la récupération de la partie solide du lait. Voilà, et enfin, les tâches du quotidien, c'est aussi de piler, un travail qui est fait aussi bien par les hommes que par les femmes, pour préparer une bouillie lactée. Enfin, Marsogas s'est beaucoup intéressé à l'agriculture, à la culture. Ici, on voit la culture du blé dans un des hameaux de culture. Et on voit... la façon dont on défrichait la terre avec un travail collectif, en général rythmé par des chants pour donner de l'énergie, et l'introduction en 1963 qu'il filme du premier motoculteur dans la gare et les expériences qu'il fait. Alors, ce que ces photos ajoutent à ce type d'information, eh bien, c'est d'abord la position des corps au travail et puis la façon dont on s'habille au travail. C'est vraiment très intéressant. Les travailleurs qui se servent de la machine, ils remontent leurs pantalons, ils conservent leur turban et ils sont torse nus. Voilà, donc ça donne une idée de ce que peut-être le sentiment de nudité, ça serait certainement d'enlever le pantalon, ce qui ne se fait jamais, et d'enlever le turban aussi.
Il y a quelqu'un au bout qui a une chemise et le pantalon.
Oui, en effet, et c'est probablement un instructeur du Nord. Ah. Ça a l'air d'être un Touareg. Alors, Marsogast... même en tant qu'instituteur, il s'intéresse aussi déjà à la cuisine, aux ressources des...
Non, justement, c'est en 1956, il reçoit une visite surprise de quelqu'un qu'on connaît beaucoup par l'ethnologie et par l'histoire, Germain Thion, mais aussi, je pense, à une autre occasion, Jacques Soustelle, qui était à l'époque gouverneur général à partir de 1955. Germain Thion, parce qu'elle était dépêchée en 1954 par Mitterrand, ministre de l'Intérieur, pour comprendre l'insurrection dans l'Aurès. Et justement, est-ce que à ce moment-là, Marsogast est remonté avec eux dans le Nord pour collaborer à cette entreprise que sont les centres sociaux, et comme notamment ils s'occupaient du service audiovisuel. Et peut-être c'est lié à ces questions et à cette question centrale pour lui et que vous avez bien fait remarquer aussi dans ces photos, c'est celle de l'alimentation, c'est-à-dire de savoir comment les gens s'alimentent dans un milieu aride et comment ils se nourrissent, comment cet évitement de la dépendance alimentaire, etc. Et qu'il avait repris aussi cette thèse, j'allais dire, thionienne, c'est la même thèse qu'elle se posait dans les années 30, 34 notamment, dans l'Aurès, comment les gens survivent dans un milieu aride. C'est la même question qu'il avait importée, je pense, dans les années 60, dans le milieu touareg, qui convient bien aussi à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là, dans cet intervalle entre 56 et 60, que Marsogast, la fréquentation de ces deux ethnologues, que sont effectivement à Alger, Germain Thion et Soustelle, qu'il s'est converti à l'ethnologie peut-être?
Alors, ça a été...
Il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas dit lui-même dans ses mémoires, ce livre Ticatoutil, qui sont ses mémoires.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ça a été un tournant en effet décisif de rejoindre le projet des centres socio-éducatifs à Alger Et à Alger, Marceau Gast fréquente également le musée du Bardot, le musée ethnographique du Bardot. Il fréquente l'équipe de recherche qui a fait ce musée et il commence à se former à l'université. Donc, ça a été décisif, mais je dois dire que ce sens de l'observation ethnographique est déjà présent quand il est instituteur, ce que démontrent ses photos. Ouais. Parce qu'il s'intéresse, par exemple, beaucoup à la technique, il s'intéresse aux objets qui servent à fabriquer la nourriture. Il photographie des mortiers, des pilons, il photographie la puisette qui sert dans l'extraction de l'eau.
Vous dites ça parce qu'à partir justement de 60-62, on voit d'ailleurs les photographies du défilé de Junoud en 1962 au moment de l'indépendance, oui. À Tamanrasset, qui sont très intéressantes. Et à ce moment-là, je pense que entre 1961 et 1966, il y a eu quand même les essais nucléaires d'Eileen Kerr. Est-ce que vous avez trouvé des choses dans ces carnets ou dans ces photographies, les 10 000 clichés, des choses qui relatent cette expérience des essais nucléaires et notamment de l'accident nucléaire du 1er mai 62 dans l'Atatürk.
Péril,
oui. Voilà, qui a été. Mais je ne sais pas s'il y a effectivement des travaux, parce que, quand même, les essais atomiques qui ont commencé dès les années 60 ont attiré beaucoup de Touaregs qui ont prolétarisé pratiquement une partie et qui ont découvert le salariat, peut-être, etc. C'est un moment aussi, ce moment atomique est un moment qui a transformé beaucoup le paysage naturel, agricole, hydraulique, la vie, tout est arrivé à ce moment-là, à mon avis, pour toute la transformation, la culturation matérielle, etc.
Oui. Non, ça a joué un rôle forcément très important, c'est-à-dire le salariat dans ces chantiers du nucléaire, bien sûr, de l'extraction des essais nucléaires, pardon. Donc, ça a été important, mais Marceau Gast, parce qu'au moment où je faisais des entretiens prolongés avec lui pour qu'il écrive ses mémoires, je lui ai posé plusieurs fois la question. Et en fait, c'est une question, on va dire, que lui-même ne se posait pas. Parce que cette industrie nucléaire représentait pour lui quelque chose de l'ordre du progrès. Donc, il ne s'est pas posé ces questions. Et il n'est pas allé prendre en photo ni les chantiers. C'était peut-être pas autorisé, d'ailleurs. Hein. Il n'a pas pris en photo l'accident pour la bonne raison qu'il n'était pas là. Il va arriver un mois après et ça aura peut-être des incidences d'ailleurs sur sa santé, on ne sait pas. Enfin bref, c'est une question qu'il ne s'est pas posée et qu'il a éludée. Et dans ses carnets, maintenant il faut aller peut-être plus en détail, ses archives manuscrites sont importantes, donc j'ai peut-être pas tout lu, mais dans les carnets que j'ai consultés, il ne mentionne pas cet épisode.
Alors la situation continue un peu presque aujourd'hui, hein, le désert est devenu presque inhabitable. Pour paraphraser un peu votre titre, par rapport aux enjeux miniers, le radicalisme religieux et politique, l'éclatement au niveau de tous les problèmes qui se posent au niveau des frontières des pays qui se partagent ce monde de Touareg. Qu'est-ce que vous pensez par rapport, quand vous regardez ces photos, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui?
Non, je pense en effet que l'enjeu minier, il est présent dès 1956 avec la découverte du pétrole, des réserves de pétrole, et c'est bien pour ça que ensuite, en 1957, est créé le projet de l'OCRS qui échoue puisque l'Algérie devient indépendante, mais avec des accords extrêmement contraignants sur le plan minier. Et c'est pour ça que l'Algérie a cette étrange forme qui reprend l'avancée des troupes coloniales et qui englobe, qui annexe le territoire touareg au sud parce qu'il y a du pétrole. Donc le pétrole et le gaz algérien viennent en grande partie du pays touareg. Et vous avez raison, Kamel, de relier des faits et des réalités qui rendent aujourd'hui le désert dangereux et inhabitable, c'est-à-dire l'apparition de groupes dits terroristes, l'intervention de l'armée, et de l'armée française d'ailleurs, et si on descend plus au sud avec la découverte de l'uranium, l'intervention de l'armée française chaque fois qu'il y a un soulèvement touareg. C'est-à-dire, c'est même pas les armées nationales locales qui interviennent. Voilà. Donc, les enjeux économiques miniers sont tellement importants au Sahara que, en effet, ça explique beaucoup de choses. Et pour en revenir au milieu des années 50, il n'y avait pas encore eu la découverte du pétrole, il y avait simplement les chantiers où s'embauchaient les Touaregs, mais il y aurait les essais nucléaires bientôt, mais c'est ce que ressentaient les chefferies Touaregs. Les Touaregs étaient parfaitement inquiets et au courant de tout ce qui se tramait, et ils savaient bien qu'ils n'avaient plus du tout la maîtrise de leur pays. C'est ça la vérité. Alors, c'est vraiment cette dimension que n'ont pas perçue des observateurs qui eux-mêmes faisaient partie du système colonial. Et c'est pourquoi leur regard s'est façonné d'une certaine façon en excluant de leur regard la colonisation, tout simplement. Ils ont fait une impasse sur la colonisation.
Merci, merci Hélène Claude Awad. Alors, dire peut-être un mot sur ce fond visuel et qui va s'ajouter à un fond d'archives sonores aussi, qui va se trouver maintenant consultable et numérisé d'ailleurs à la médiathèque de la MMSH ici à Aix-en-Provence. Et je pense effectivement qu'on aura des chercheurs qui vont s'intéresser de plus en plus à ce fond. Est-ce que vous avez des précisions à donner sur ces fonds d'archives, Hélène Claude?
Oui. Alors, pour l'instant, le fonds Marsogast des photos après 1960 est toujours à l'IREMAM. Et en effet, la MMSH, la médiathèque de la MMSH a fait le projet et a fait la pression utile pour pouvoir récupérer ce fonds qui est quand même très important sur le plan du volume et pour le traiter. Alors, moi, en tant que chercheur, j'estime que ça serait plutôt la tâche d'un centre d'archives professionnel. Donc, j'ai quelques doutes sur la faisabilité de cette tâche, mais j'espère que l'avenir démentira mon inquiétude. Mais c'est vrai que c'est un fonds qui nécessite beaucoup de professionnalisme pour être conservé d'abord. Il faut avoir les conditions de le conserver pour être traité. Pour être numérisé, et j'espère en effet qu'il sera un jour accessible à l'ensemble de la communauté scientifique, à condition de prendre évidemment un certain nombre de précautions éthiques, comme par exemple le fait de ne pas mettre en libre accès des photos dont on ne comprend pas le sens profond, et en plus avec le nom des gens, des familles. Ça ne se fait pas, on ne ferait pas ça avec des personnages qui figurent sur des photos en France, par exemple.
Merci, voilà. Merci beaucoup. Alors, merci Hélène Claude Awad pour se prêter à cette séance de Livre et Main qui est maintenant terminée. Merci à tous, à toutes et au revoir.
Merci. Au revoir.